Les Canuts, première partie, chapitre 10. Le dimanche 6 décembre, avant de quitter Lyon, le duc d'Orléans devait passer en revue toutes les troupes sur la place Bellecour. Vers 10 heures du matin, les Jacquemins étaient réunis autour du poêle, la mère préparant le dîner, Marius lisant, lorsqu'on frappa à la porte. Le vieux Diano parut, serré dans une lévite vert bouteille, boutonné jusqu'au menton. « Bonjour à tous, » dit-il gaiement. Les Jacquemins s'exclamèrent. « Comment ? C'était lui ? On le croyait retourné à Saint-Rambert depuis le mercredi précédent. » Il y était retourné. Mais, en se levant, ce matin, il avait vu le temps sec et bon pour la marche. Ma foi, l'envie lui avait pris d'assister à la revue. Ça lui rappellerait l'ancien temps. Il était parti, la canne à la main, et, comme il était encore de bonne heure, il venait savoir, en passant, s'il voulait l'accompagner. « Va pour la revue !» dit Jacquemin. Puisqu'il faisait froid, il mettrait un bon tricot sous son habit et se réchaufferait en marchant. Seulement, Diano leur ferait l'amitié de venir dîner avec eux après la revue. Diano se défendit pour la forme, mais ce serait à la fortune du pot. Il finit par accepter. En causant, ils burent une goutte d'arquebuse pour se mettre un peu de chaleur dans l'estomac, avant de s'exposer au froid. Puis, vers 11 heures, ils se mirent en route avec Marius. La revue était à midi. Dehors, une bise aigre soufflait. Jacquemin fourra les mains dans ses poches et releva le collet de son habit. Les pavés pointus de la grande côte étaient glissants. Au bout de quelques pas, le père, malgré le bras de Marius qui le soutenait, eut peur de tomber et ne voulut pas continuer par là. À son âge, on était plus souple comme à 20 ans. Ils remontèrent la rue Néret, prirent la côte des Carmélites, puis, par la place Satonnet et la place de l'Herberie, gagnèrent la rue des Auges et la rue Lanterne. Sur les quais de la Saône, des régiments défilaient, se rendant à la revue. Tambours battant, clairons sonnant, les soldats marchaient d'un pas alerte. Pour éviter la bise, les trois hommes continuèrent par la grande rue Mercière, dont la chaussée était sillonnée par un ruisseau gelé. Lorsqu'ils passèrent devant la préfecture, Marius rappela la manifestation du mois d'octobre. À quoi avait-elle servi? Et ce fameux tarif qui devait tout arranger? Il avait duré 20 jours et amené la guerre civile. Et le maréchal Soult venait de le supprimer pour donner au Conseil des Prud'hommes le droit de régler toutes les contestations entre patrons et ouvriers. M. Bouvier du Molard, lui-même, qui avait poussé l'institution du tarif, avait quitté la préfecture pour faire place à un autre. « Ainsi va le monde, » dit le père. « C'est égal. Le gouvernement ne connaissait pas le préfet. C'était un brave homme qui aimait l'ouvrier. Vous rappelez-vous, Diano ? Quand il nous a embrassés, hein? Moi, j'étais honteux, j'avais une barbe de 3 jours. » Tout ragaillardis par ses souvenirs, les deux vieux, accompagnés de Marius, arrivèrent place Bellecour. Les banquettes de pierre du pourtour étaient déjà envahies par la foule qui se pressait, compacte, avide d'assister à une grande revue passée par un prince du sang. Les fenêtres, tout autour, étaient, malgré le froid, garnies de spectateurs. Les habits bleus ou marrons, à boutons d'or, se mêlaient aux couleurs vives des robes de soie. Les élégantes de la société légitimiste ne dédaignaient pas de se montrer en grande toilette, le corsage échancré, les manches bouffantes, la lorgnette à la main. Si elles exécraient Louis-Philippe, tout ce qu'on disait du jeune duc leur inspirait de la sympathie pour sa personne. Et, la curiosité l'emportant sur un reste de scrupule, elle s'était résignée, pour le voir, aux ovations que le peuple allait lui faire. Au fond de la place, adossé au vieux tilleul, s'élevait l'estrade d'honneur, tendue de velours et de damas rouges, pavoisée de drapeaux tricolores et présentant une suite de gradins occupés peu à peu par les autorités en costume officiel et les femmes des fonctionnaires. Sous le ciel gris, d'imperceptibles flocons de neige flottaient dans l'air, estompant les profils de la colline de Fourvière et des façades. Isolée, au milieu de la place, la statue équestre de Louis XIV semblait attendre. Et de tous côtés, musique en tête, les troupes débouchaient. Chaque régiment, l'un après l'autre, avec un battement de pas cadencé sur le sol durci par le froid, venait se ranger en bataille à l'endroit désigné. Les gendarmes, en tenue de service, grandes bottes et culottes blanches, faisaient la police, refoulant les impatients qui empiétaient sur l'enceinte réservée aux troupes. Toutes les 10 minutes, il fallait recommencer, les nouveaux venus poussant les spectateurs des premiers rangs. Les gendarmes faisaient alors appuyer leurs grands chevaux la croupe en dedans. C'était, dans la foule, des bousculades, des disputes entre hommes, des cris de terreur jetés par les femmes et les enfants. Puis tout se calmait. Pour un instant, on reprenait l'alignement. Devant les cafés, des curieux grimpaient sur des chaises, des tables, des escabeaux, allongeant le cou pour voir par-dessus la foule. La circulation des voitures avait été interdite dans les rues environnantes. Un charretier, conduisant un lourd camion, voulait passer outre et injuriait un gendarme qui lui enjoignait de rebrousser chemin. Les sergents de ville l'emmenèrent au poste et son attelage fut conduit à la fourrière, au milieu des éclats de rire des gones suspendus en grappe aux réverbères et aux arbres. Diano et les Jacquemins erraient à l'aventure dans la foule, cherchant vainement des places libres sur les banquettes de pierre. Une voix perçante appela.
Hé, Marius ! Hé, père Jacquemin !
Ils se retournèrent et aperçurent le museau espiègle d'Eugène Dénégris. Jacquemin se mit à sermonner l'enfant.
Le petit polisson !
Il s'était encore échappé. Il serait grondé en rentrant et ne l'aurait pas volé. Sa mère et sa sœur devaient venir à la revue. Pourquoi ne les avait-il pas accompagnés ? Accroché à son perchoir comme un singe, le petit gonne donna ses raisons. Sa mère arriverait trop tard. D'ailleurs, quand il était avec elle, il fallait qu'il fût dans son jupon et lui ne voyait rien. Que le derrière des gens. Aussi.
Marius l'interrompit. N'apercevrait-il pas une place pour eux sur les banquettes ? Il aurait 2 sous, s'il trouvait.
Hey, « Vous êtes 3, c'est pas facile !»
répondit Eugène, promenant ses regards à droite et à gauche.
« Si !» fit-il tout à coup. « J'ai trouvé ! Attention !»
Portant ses doigts à la bouche, il se mit à siffler sur un ton si aigu qu'une 10aine de personnes montées sur les banquettes se retournèrent.
« Monsieur ! Eh, le gros monsieur, là !
Écoutez donc ! Il y a là-bas au café un monsieur qui m'a donné 2 sous pour vous appeler tout de suite. Dépêchez-vous, ça presse !»
Le gros homme, aussitôt, descendit de la banquette et fendit péniblement la foule qui se resserrait sur son passage. Sa place restait vide. Marius comprit le tour.
« Hé ! Vite, donc !» leur cria Eugène. « Pendant que la place est chaude !»
Il riait aux éclats de sa bonne farce. Les 2 vieux avaient des scrupules. C'était mal de prendre la place des autres. Petit diable ! Enfin, il aurait ses 2 sous.
ils se glissèrent à la place vide. Maintenant, le monsieur mystifié ne pourrait plus traverser la foule. Tous les régiments étaient arrivés. Au fur et à mesure, les tambours et les clairons venaient se ranger au pied du cheval de bronze, en face de l'estrade. Les gardes nationaux et la ligne formaient un immense cordon sur les grands côtés du rectangle. Sur les côtés Rhône et Saône, la cavalerie et l'artillerie étaient rangées en bataille. Çà et là, les colonels donnaient le dernier coup d'œil à leur régiment. Midi sonna à la Charité. Le général Roguet, commandant l'armée, leva son épée. Les tambours battirent au champ. Les clairons sonnèrent. Les troupes présentèrent les armes. Et le duc d'Orléans, à la tête d'un brillant état-major, déboucha à cheval de la rue Louis-le-Grand. Le jeune prince s'avança, au petit trot, devant le front des troupes. Il portait l'uniforme du premier hussard. Grand, élancé, le visage ovale et le teint clair, avec une fine moustache et un léger collier de barbe châtain, il séduisit tout de suite par sa physionomie ouverte. De la foule s'éleva un long murmure de curiosité et de sympathie. Diano connaissait la plupart des généraux de la suite du prince et les nommait fièrement à mesure qu'il passait. D'abord, le maréchal Soult, la poitrine couverte de décorations, les cheveux tout blancs, bien vieilli depuis que Diano l'avait vu le 10 avril 1814 à la bataille de Toulouse. Ça avait chauffé ce jour-là, et les alliés avaient été brossés en première. Diano l'avait vu plusieurs fois en Espagne, auprès du roi Joseph. Il avait été une fois de planton à sa porte. Bon général, mais on disait alors dans l'armée qu'il était ambitieux et qu'il voulait se faire couronner roi de Portugal. Derrière lui venaient les généraux Baudran et Morand, Hulot, Monck d'Uzès, Fleury, de Castellane, qui commandaient la brigade de cavalerie légère. Le prince royal et son état-major avaient fait le tour de la place. Devant l'estrade d'honneur, ils mirent pied à terre et gravirent les degrés conduisant au siège réservé. Un grand mouvement se fit dans le monde officiel qui occupait l'estrade. Chacun se levait pour s'approcher du prince. Sur le fond rouge des tentures, on voyait s'agiter les fourrures claires et les chapeaux gigantesques, chargés de plumes énormes, des femmes qui s'avançaient aux bras des fonctionnaires pour se faire présenter. Le duc saluait, très affable pour tous. Mais le moment des discours était venu. À la tête de la municipalité, M. Prunel, maire de Lyon, commença une longue harangue dont les phrases ne parvenaient pas au-delà de l'estrade. La foule était impatiente.
« Plus fort ! On n'entend rien !»
glapit Eugène du haut de son réverbère. Un sergent de ville qui rôdait par là s'élança pour l'empoigner. Le petit gonne sauta prestement à terre et se glissa dans la foule où il se perdit. Tous les corps constitués, à leur tour, complimentèrent le prince. Lui répondait par quelques paroles simples et bienveillantes qui soulevaient dans la tribune des murmures d'approbation. Les discours terminés, on vit sortir des rangs et se diriger vers l'estrade les officiers et les soldats qui devaient recevoir des croix pour leur vaillante conduite pendant l'insurrection. Quand ils furent réunis au pied des gradins, le duc d'Orléans, d'une voix forte, les félicita dans un langage de patriote et de soldat, puis leur lut la formule du serment de la Légion d'honneur. Tous ensemble, au bruit des fanfares éclatant soudain, répondirent « Nous le jurons !» Un à un, les nouveaux promus montèrent les marches de l'estrade. Le prince prenait les croix sur un plateau d'argent que tenait le maréchal Soult, debout à sa droite, et lui-même les attachait sur la poitrine de ses vaillants, adressant à chacun d'eux un mot qui lui allait au cœur. La foule, impressionnée, se taisait. Marius suivait cette scène d'un regard triste. On honorait ceux qui avaient tué ses frères. La vision des journées sanglantes se représentait à son esprit. Tout à coup, il vit monter, la tête encore entourée d'un bandeau, le sergent-major qu'il avait sauvé. Une violente émotion le saisit.
« Père, dit-il, ce sous-officier là-bas, c'est lui, vous savez ?»«
C'est lui ? » fit le vieux.
« Ah, mon Dieu, pauvre enfant !
Eh bien, on a raison de leur rendre hommage. Ils ont fait leur devoir. »
Diano ne parlait plus. Il tira son mouchoir, se moucha bruyamment et, à la dérobée, s'essuya les yeux. La distribution des croix venait de finir. Le duc d'Orléans et son état-major remontaient à cheval. Des commandements retentirent. Au son des tambours et des clairons, les troupes commencèrent à défiler devant l'estrade. En tête marchaient, en colonne serrée, les bataillons de gardes nationaux de l'Ain, de la Côte d'Or, de Saône-et-Loire, de l'Isère, de la Drôme. L'infanterie suivait en bon ordre. Les 13e, 24e, 40e, 66e de ligne, en colonne de compagnie, à distances entières. Ensuite venaient l'artillerie et la cavalerie, défilant au trot. La première par demi-batterie, correctement alignée, avec les servants à pied, suivant leurs pièces, le mousqueton sur l'épaule. La seconde par peloton, superbement monté, excitant l'admiration des spectateurs. D'abord, les dragons, solides, l'allure martiale. Le 12e, à l'honneur après avoir été à la peine, lui, si malmené, la dernière nuit de l'émeute. Et le 10e, appelé de Dijon. Puis, deux escadrons de chasseurs et de lanciers, élégants et légers, avec leurs uniformes clairs. C'était l'escorte du prince. Les cavaliers portaient le sabre, le poing à la hanche, le dos de la lame au défaut de l'épaule. Passant devant l'estrade, les officiers saluaient de l'épée. La gendarmerie ferma la marche, fière et imposante, comme un corps d'élite composé tout entier de vieux soldats. Les troupes avaient passé. Lentement, la foule s'écoulait par les rues et les quais, les hommes s'en allant par groupes, les femmes tirant des enfants de chaque main. La rue Saint-Dominique était si encombrée que Diano et les Jacquemins passèrent par le quai Saint-Antoine.
« Une belle revue tout de même, » dit le père, prenant une prise de tabac. C'était bien la vie de Diano. Il n'en avait pas vu d'aussi belle depuis l'Empire. Pour un vieux soldat comme lui, qui avait roulé sa bosse par toute l'Europe, ça faisait toujours une émotion. Et il se lança dans le récit de ses campagnes, racontant avec feu et gesticulant. Marius, l'écoutant d'une oreille, soufflait dans ses doigts. Peu à peu, le ciel s'était éclairci au-dessus des coteaux de Saint-Foy. De pâles rayons de soleil, perçant les nuages, se reflétait sur l'eau tranquille de la Saône. Les trois hommes marchaient au bord du quai. Sans souci maintenant, Jacquemin se lantibardanait, comme au beau temps, les deux mains dans ses poches. La crise semblait toucher à sa fin. L'accord se ferait, les affaires reprendraient. Lui se remettrait à son fameux régulateur, l'achèverait et le présenterait à la chambre de commerce. L'avenir lui paraissait moins sombre et il souriait au froid soleil qui dorait les arbres givrés. Derrière eux, une voix de femme appela, épouvantée.
« Eugène, tu vas tomber. Veux-tu venir ici? Obéiras-tu, vilain polisson? »
Ils avaient reconnu la voix. C'était cette pauvre dame d'Enegris qui retrouvait son gamin au bord de l'eau après l'avoir cherché dans tous les coins de la place Bellecour. Se penchant, ils aperçurent Eugène, debout au bas de la berge, les pieds dans l'eau, lançant à tour de bras des pierres plates sur la Saône pour faire des ricochets. Plus la mère criait, plus le petit s'acharnait à lancer des cailloux, comme s'il eût voulu les jeter tous avant de remonter. Les hommes riaient. La pauvre femme avait l'air d'une poule qui aurait couvé un canard. À son tour, Louise appelait son frère. Marius finit par s'en mêler d'une voix de croque-mitaine. Alors le petit se décida à remonter, le pantalon mouillé et les souliers boueux. Madame d'Enegris et sa fille avaient atteint les hommes. Eugène fut grondé. Mais, habitué aux semonces maternelles, il ne répondit pas et partit comme un trait en avant du groupe. Toute rose, sous son petit bonnet blanc, Louise, gaiement, questionnait Marius sur la revue, demandait les noms des généraux, se faisait expliquer des détails. Et, tandis que Marius répondait poliment, elle le considérait de ses grands yeux bleus pleins de tendresse. Entre les vieux, la conversation languissait. D'un mouvement machinal, Jacquemin tira sa grosse montre d'argent. 2 heures et demie, nom d'un rat. La bourgeoise va gangonner. Ils pressèrent le pas. De l'autre côté du quai, le long des maisons, Monsieur Victor Jacquemin, sa femme au bras, accompagné de Marthe, rentrait chez lui, quai d'Orléans, revenant aussi de la revue, avec une allure solennelle de bourgeois endimanché. Près du pont Saint-Pierre, il aperçut son frère à quelques pas de lui. D'un soubresaut, il se jeta en arrière. « Mais qu'as-tu donc ? » dit Madame Jacquemin. « Mon frère, là-bas. Comme il vieillit, le pauvre garçon. » Fin de la première partie.